Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Fatman à la technique. Voilà, en première partie d'émission aujourd'hui, comme c'est jeudi, on va parler de sport avec Myriam Larache. Et en deuxième partie, oh, je pense bien qu'elle va nous faire un gros résumé de ce qui se passe un peu dans le monde sur le plan sportif. Restez à l'écoute. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Patrick White qui nous a sorti un livre sur la vie d'un prince royal méconnu. Voilà, Henri Daniel Tilke. Wow, intéressant. Intéressant, restez à l'écoute. Et puis bon, ben, ça se date des années 1788 à 1774, bien sûr. C'est comme ça. C'est dans cette période qu'il a vécu, ce prince peintre. Voilà, ce prince peintre, la vie royale inconnue de ce peintre-là. Voilà, on ne sait pas comment il a vécu ça, comment il est arrivé là, dans la famille royale anglaise à l'époque. De toutes les façons, il n'y avait pas de différence entre les Anglais et les Allemands. À cette époque, c'était les Allemands qui étaient d'ailleurs dans ce royaume. Le nom a été changé plus tard. Hein. Ils avaient tous des noms allemands. Tilke, ça sonne très bien allemand. Voilà. Windsor, là, ça a été plus tard qu'ils ont... pour essayer de conquérir un peu la population anglaise, quoi, pour ne pas dire « Ah, ils sont d'origine allemande ». Bon, ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il y aura un autre livre qui viendra sur ça plus tard, pourquoi pas. Parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas ça, quoi. Ils ont toujours été des Anglais. Non, ils sont tous venus de l'Allemagne. Ils avaient des cousins, cousines, même du côté grec aussi. Il y a du sang là-bas. Voilà. Alors, comme toujours, on part en musique. Avec qui? Avec Jack Kerr. Unconditional Love.
Unconditional love, you never
Unconditional love, l'amour inconditionnel. Alors, la grande Myriam l'arrachait déjà au bout du fil. Elle va nous faire parcourir le monde sportif d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre, ou bien de quelques continents à l'autre. Bonjour Myriam l'arrache.
Bonsoir Fulgence, ça va bien?
Oui, je vais bien, merci. Et toi?
Ça va bien, merci. Bonsoir à tous nos auditeurs fidèles et infidèles. Alors, oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui avec, bien sûr, le plus grand événement en ce moment sportif, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.
Oui, oui.
Alors, je vais vous donner quelques résultats parce que vous savez, je ne peux pas, avec 10 minutes, vous parler de tout.
Non. L'essentiel.
Voilà, j'en ai relevé quelques-uns et nous parlons, bien sûr, nous allons aborder, bien sûr, d'autres sujets sportifs parce qu'il n'y a pas que les Jeux de Pékin en ce moment. Alors, on commence par le patinage de vitesse longue piste. Pourquoi? Parce que c'est dans cette épreuve-là que l'Ontarienne Isabelle Weidman a donné la première médaille au Canada à ces Jeux de Pékin. Elle a brisé la glace. L'athlète de 26 ans a d'ailleurs obtenu sa deuxième médaille aujourd'hui aussi aux 5000 mètres. Donc c'est patinage de vitesse, longue piste. Ça c'est de la laine et ça c'est des muscles, monsieur, dans les jambes. Non mais c'est vrai.
Myriam, elle n'est pas partie pour rien, hein.
Oui, non, mais je parle du physique en général.
Ah, oui, oui.
Parce que longue piste, quand tu vois longue piste et courte piste, le physique est différent.
Ah,
le
ouais.
Physique des longues pistes, ils sont des jambes incroyables. Il faut tenir 3000 mètres, ces gens. Il ne faut pas tenir 500
très
mètres.
Bien, ils sont tout le temps en entraînement, là, d'ailleurs, de toutes les façons.
Oui, c'est incroyable. Mmh. Alors, donc, c'est l'Ontarienne Isabelle Weidman qui nous a honorés. Soulignons d'ailleurs que cette Isabelle Weidman est meneuse au classement général dans le circuit international. Hein, donc, ce n'est pas une surprise là, pour ce monde-là. On va passer ensuite au slopestyle. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le slopestyle?
Oui, je les ai vus en train de sautiller là-bas sur les pentes, là, les manchets.
Ah,
là, les...
incroyable. Hein,
oui, je...
C'est la descente acrobatique en sorte des neiges. Alors, c'est la traduction francophone, oui, on va dire.
Oui.
Donc, le Québécois Maxence Parot a décroché la médaille d'or en descente, donc acrobatique au surf des neiges, 3 ans après Fulgence avoir vaincu un cancer rare. Le voilà champion olympique.
Oui, mais celui-là,
c'est incroyable.
C'est... Oui, oui, c'est le sorcier des sportifs. C'est...
Oui.
On peut le dire comme ça. Voilà. Voilà.
D'ailleurs, son histoire digne d'Hollywood a visiblement ému le monde entier, car après cette victoire, ben, toutes les plus grandes chaînes de télévision ont sollicité l'athlète de Bromont pour parler de sa persévérance, comment il a fait pour en arriver là aujourd'hui, 3 ans après être dans un lit d'hôpital, hein, il y était là. Alors la chimio, il est passé partout. Hein.
Il est passé partout, je sais qu'il y a Hollywood qui va le contacter, ça c'est clair.
Alors oui, bravo pour notre Maxence Parot. Alors, patinage de vitesse courte piste, le patineur de vitesse Steven Dubois a offert au Canada une première médaille masculine dans ce sport-là. Au Palais Omnisport de Pékin, il a décroché l'argent aux 1500 mètres. La femme, la Québécoise Kim Bouta, a remporté le bronze aux 500 mètres. Elle avait également obtenu le bronze à Pyeongchang en 2018. Alors je me recorrige, ce n'est pas la première médaille dans ce sport-là, mais au Palais Omnisport de Pékin, c'est lui qui l'a eu. Charles Hamelin a été éliminé, malheureusement, en demi-finale. Hein, on l'attendait, Charles Hamelin, le porte-drapeau le jour de la cérémonie officielle.
Donc, Myriam, Kim avait fait une chute, non?
Elle a fait une chute pour le 3000 mètres, je pense.
Oui.
Pas le 3000 mètres, le 1500 mètres.
Oui.
Elle n'a pas été capable de faire le 1500 mètres, mais elle a fini par gagner le bronze aux 500 mètres.
Génial, déjà, au moins, génial. Oui. On lui dit bravo.
Oui. Oui, la même médaille d'ailleurs qu'elle a eue en 2018. Alors,
oui,
on passe au snowboard cross. Ça aussi, c'est spectaculaire. Fulgence, il faut que tu vois ça, ça se peut pas. Moi, je suis fascinée, je suis restée la bouche ouverte à les regarder. Alors, surtout les femmes, c'est les hommes, hein, en ce moment d'ailleurs. Alors, la Canadienne Marietta Odin a obtenu la médaille de ces Jeux de Pékin. La Britanno-Colombienne de 24 ans prend sa revanche sur le mauvais sort aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Elle n'avait pas pu prendre au départ la compétition en raison d'une commotion cérébrale subie à l'entraînement. Donc aujourd'hui, elle est contente. La médaille d'or est allée à l'Américaine Lindsay Jacobellis. Incroyable. La plus âgée d'ailleurs des planchistes dans ce dans cette compétition. Elle a 36 ans.
Mais,
alors, je ne sais pas si tu l'as vu.
Mais comment elle arrive à battre la nouvelle génération comme ça à 36 ans?
Ben, je pense que c'est l'expérience qui parle. Genre,
oh, ouais.
Je ne sais pas si tu as déjà vu cette compétition-là, donc le snowboard cross. Ils partent 4 par 4, d'accord?
Oui, c'est ce que c'est. Bon, je croyais que je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mélangé peut-être avec l'autre là, mais j'ai pensé quand oui. je les vois, je pense à leurs genoux. Hein, je dis ceux-là quand ils auront 40 ans, leurs genoux ne vont plus fonctionner. Hein.
Ah oui, ça c'est oui, surtout en boss à ce qui paraît.
Ah oui,
beaucoup les genoux.
Ouais.
Alors là, ils descendent 4 par 4 sur un snowboard, puis ils ont une longue piste très pointue avec des virages et souvent en fait. L'athlète ne doit jamais abandonner, même s'il est quatrième ou cinquième, parce qu'est-ce qu'il arrive? À un moment donné, il y a un athlète qui finit par chuter, par sortir de la piste.
Donc, tu t'accroches pour arriver, pour faire ton parcours, quoi.
Il faut, en fait, rester très constant, essayer de ne pas tomber. Et d'ailleurs, notre Marietta Odine, j'ai vu toutes les épreuves qu'elle a passées, hein, toutes les vagues, de sa qualification jusqu'au quart, jusqu'à la demi. Et écoute, elle était en tête, elle gagnait tout le temps. Hein. Moi, je pensais qu'elle allait avoir l'or hein, quand elle arrivait à la finale, dans les quatre derniers.
Wow.
Dernières, pardon. C'est spectaculaire, c'est beau à voir, il faut avoir du...
J'ai vu des images, mais c'est leurs genoux qui me font pitié. Quand je regarde les jambes, les genoux, il dit, mais ceux-là, à 40-50 ans, ils n'auront plus de genoux, là.
Écoute, ça, c'est l'aléa du sport. Hein.
Ouais, c'est l'aléa
sport
du...
comme ça où, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent jeunes, au fait. Parce qu'à un moment donné, le corps est amoindri.
Il ne fait plus avec, ouais.
On a le saut à ski aussi. L'équipe canadienne a décroché, contre toute attente, une médaille de bronze à l'épreuve mixte sur tremplin. Donc, au centre de ski de Zhangjiakou, je ne sais pas si je prononce ça bien, Alexandria, Lutit, Abigail Tate, Matthew Sokup et Mackenzie Boyd-Close ont récolté un total de 844 points.
Oui.
Donc, pour arriver à la troisième marche du podium, il s'agit, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je m'étais un peu trompée, de la première médaille dans l'histoire du Canada en saut à ski. Alors, on n'a jamais eu de médaille dans cette épreuve-là. Et c'est les Slovènes qui ont remporté l'or avec 1000 points. Maintenant, patinage artistique,
oui.
Je vais finir avec ça.
Oui.
Chez les hommes, vous vous rappelez, la semaine dernière, je l'avais dit que notre champion canadien était bloqué parce qu'il n'avait pas de test négatif pour arriver. Il a finalement eu ses tests négatifs et il arrivait juste à temps pour faire la compétition.
Oui.
Donc notre Canadien, Keegan Messing, s'est qualifié avec son programme court, je l'ai vu. Il est arrivé au 9e rang, mais malheureusement, il a fini 11e. Mais il faut voir, Fulgence, c'est une compétition presque inhumaine qui s'est passée en patinage artistique chez les hommes à coup de quadruple saut. C'est que ça ne se faisait pas avant, hein, les quadruples sauts.
Mais qui a imposé ça? C'est nouveau, ça?
C'est la jeunesse, c'est l'athlète comme il a évolué, au point que, tu sais, notre spécialiste national, analyste Alain Goldberg, hein, c'est lui qui commente tout ce qui est patinage artistique, il a dit c'est du jamais vu.
Du jamais vu.
Ils se sont compétitionnés à coup de saut de quadruple. Écoute, c'est incroyable. Il y en a un qui est tombé d'ailleurs, qui s'est fait mal, il s'est relevé.
Quadruple saut.
Et il a recontinué. Ouais. Alors, c'était quelque chose, honnêtement. Alors, c'est l'Américain Nathan Chain qui l'a remporté,
oui.
Qui a fait une prestation d'anthologie, dit-on déjà. Jamais vu, il a fait des quadruples dans tout, salco.
Ça va rester dans les annales, ça.
Voilà. Mm-hmm. L'argent et le bronze sont allés aux Japonais Yuma Kajiyama et Shoma Ono. Sachez que le double champion olympique 2 années de suite d'hiver, le japonais Yuru, il n'a pas pu, il est arrivé 4e, parce que lui n'arrive pas à faire ce quadruple. Tu vois comme ça évolue vite, hein?
Wow.
Il n'arrive pas à faire ce quadruple saut.
Mais il ne s'est pas entraîné pour ça, voilà.
Mais il a essayé, hein? Il est venu, il a essayé pour son programme libre,
oui.
Il est tombé. Il est tombé, il a roulé, mais malgré ça, il est arrivé 4e. Alors, voilà. Donc, au classement de tous ces jeux pour l'instant, nous sommes en troisième position, hein, le Canada.
C'est pas mal, hein?
Oui, c'est pas mal. Nous avons 12 médailles, une en or, 4 en argent et 7 en bronze. Alors, que ça continue. Bravo, Canadiens.
On l'a dit, bravo, ces athlètes-là. Ouais, vraiment, c'est...
Exact.
Oui.
C'est spectaculaire, honnêtement. Il faut aller regarder. Hein.
Alors, je vois quelques vidéos de temps en temps. Pas aux nouvelles, mais je vais sur YouTube, je prends les résumés, là.
Oui, mais il y a des sports YouTube. Un peu bizarres, comme j'ai dit hors antenne à notre... celui qui nous fait la technique, Nicolas.
Oui.
Il y a pas tous les sports que... Il y a des sports bizarres, mais en tout cas, il y en a. C'est vraiment quelque chose
de
haut niveau.
Myriam, il y a d'autres même qu'on ne connaît pas encore qui vont apparaître dans les prochains JO. Hein.
Ah,
il y a tellement de sports qui se créent maintenant. Donc, tu as fini là, Myriam.
Bientôt, il me reste quand même deux choses importantes à dire. Le hockey des Canadiens de Montréal, vous savez qu'il a été congédié, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Il a été remplacé par le hockeyeur québécois Martin Saint-Louis. donc qui est maintenant entraîneur-chef par intérim du tricolore. C'est une affaire à suivre. Et, voyons, ce dimanche, c'est les 56e Super Bowl, Fulgence. Est-ce que tu suis ça, toi?
Je suis pas un accro, mais je suis, c'est une fois dans l'année.
C'est à Los Angeles cette fois-ci. Alors, c'est à Los Angeles cette fois-ci, ce dimanche 13 février, qui se jouera donc la 56e édition. Oui. Les Bengals de Cincinnati qui vont affronter les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium. Par ailleurs, la question raciale a été abordée cette semaine, Fulgence, au Super Bowl. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a récemment dit, hier, d'ailleurs, dans une conférence de presse, qu'il jugeait inacceptable le faible nombre actuel d'entraîneurs-chefs issus des minorités qu'il y a dans ce circuit. Il ne le tolérera plus. Un sujet qui n'a pas fini de parler. À la mi-temps, bien sûr, c'est Snoop Dogg.
Ça veut dire quoi ? Il veut quoi ? Il veut beaucoup plus d'entraîneurs de la minorité ?
Ouais, il en veut parce qu'il n'y a que des blancs. Hein. C'est...
Bon,
c'est les entraîneurs.
Oh, il était temps qu'il ouvre sa bouche maintenant. Hein.
Voilà, ouais.
Voilà.
Alors, la mi-temps sera à surveiller avec le spectacle de Snoop Dogg et ses complices Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar et Mary J. Blige.
Snoop Dogg et...
Oh, oui,
oh, le vieux de la vieille. Oh, là, ils sont allés le chercher, celui-là.
Ils sont allés le chercher. Et d'ailleurs, il a dit que c'était un rêve qui se réalise.
Je peux m'imaginer. Non. Lui, là, c'est. Voilà, lui, il fait tellement de flaquer, en fin de compte, on se dit, mais Snoop Dogg, une fois, il peut se la fermer. Hein, mais.
C'est un drôle de phénomène.
Alors, merci beaucoup.
Pour les pubs, oui. Ça sera Serena Williams à surveiller, bien sûr. Alors, je vous dis. Bon Super Bowl, continuez à encourager et regarder les Jeux Olympiques et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup et puis bon ben voilà, bon week-end en même temps quoi.
Girls, I can't help myself.
She's gonna do it. She's gonna do it.
I'm gonna do it till the cows come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. Gonna move it slow like a mule.
Gonna move it, girl.
I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best and try hard to get him. And if I just take a look at that child,
and if I
he's enough to drive a poor gal wild,
and if I
take him in, check him out, I'm gonna.
She's gonna love him. She's gonna love him.
I'm gonna scooby shooby doop all night.
Gonna love him, girl. Gonna love him, girl.
I'm gonna try to lie till the sun rises. And when the clock strikes 12,
shoot up and copy.
Mm-hmm.
move out.
Do it, do it.
Yes, I'm gonna do it.
Betty Davis, ouais. La pionnière, la reine pionnière du funk vient de nous quitter. Elle nous a quitté hier à l'âge de 77 ans. Betty Davis, c'était l'épouse de Miles Davis. J'ai pas bien de le présenter encore, Miles Davis, le grand, grand, grand monsieur qui nous a quitté aussi il y a quelques années. Grand saxo. Voilà. C'était le grand, un des grands du jazz, quoi, disons. Parce que ce monsieur, sincèrement, il faut le dire, ouais. Voilà, ceux qui ne l'ont pas vu avant sa mort, avant qu'il ne meure, là, ils ont raté quelque chose. Hein, il faut le dire. Bon, c'était Betty Davis et le titre de la pièce s'appelle Shubby Dope & Cohen. Elle est partie hier à l'âge de 77 ans. C'était une chanteuse de culte, hein, ex-épouse de la légende du jazz, Miles Davis, qui a laissé une œuvre sous-estimée, mais pionnière. Mais c'est vrai parce qu'elle n'a pas pu vraiment, sa carrière n'a pas pu vraiment décoller parce qu'elle abordait trop de thèmes à l'époque. Sensuelle, sexuelle, très, 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 très libertine, disons, quoi. Et c'est ce qui fait que peut-être que les médias n'ont pas trop, mais même il y a beaucoup de grands aujourd'hui qui font du funk, qui se disent, sans elle, le funk n'aurait pas eu cette couleur-là. Voilà. Donc, on dit, mes condoléances et mes sympathies à toute sa famille, à ses proches, à ses amis, et que la télé soit légère, et on a écouté sa pièce. C'est une grande tristesse que je partage, la nouvelle du décès de Betty Davis, influenceuse musicale au multiple talent de rockstar, pionnière, chanteuse, compositrice et icône de la mode. Voilà, a déclaré l'ami de longue date de Davis, et Connie Portis, dans un communiqué hier, c'est hier qu'elle est partie à 77 ans. La quasi-totalité du catalogue musical de Davis a été enregistrée entre 64 et 75. Ouais, mais son impact se fait sentir depuis des décennies. Mannequin de profession, elle a commencé à faire de la musique sous son nom de naissance, Betty Mabry. Voilà, c'est quand elle a épousé, quand il a eu le mariage avec Miles Davis qu'elle s'est nommée Betty Davis. Alors que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rapidement, je voulais parler d'un événement. J'ai pour une soirée en compagnie de Jennifer Abel, cet événement virtuel d'ailleurs, qui est présenté en français avec interprétation simultanée en anglais aujourd'hui, de 9h à 20h30 au Musée canadien de l'histoire, mais c'est virtuel. Bon, c'est à Gatineau, hein, mais n'allez pas là-bas, c'est virtuel. Ne vous déplacez pas, c'est virtuel, peu importe où est-ce que vous êtes en mesure de voir ça. L'Olympienne et la Canadienne, l'Olympienne la plus médaillée au championnat du monde de sport aquatique, Jennifer Abel parle de faire sa place comme athlète métisse en plongeon, oui, de la conquête du podium et de la vie après le sport. Ça va être intéressant. Comment se sent-on quand on se tient en équilibre sur la pointe des pieds au-dessus d'une piscine, sachant qu'il faut maîtriser le temps dans les airs et les rotations pour réaliser une plongée parfaite? Elle peut vous en parler, elle va tout vous dire. Ce soir, en ligne, allez sur le site du Musée canadien de l'histoire, de 19h à 20h30. Et puis il y a une autre qui fera de ça aussi, une soirée en compagnie, il y aura un Perdita Felicia qui sera aussi en ligne, ça va être le jeudi 17, de 19h à 20h30, je vais revenir là-dessus, hein. Le 17, on a encore quelques jours devant nous. On termine en musique, Nicolas, avec Peter Gabriel, Pico.
Oh.
September 77. Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh,
Gabriel Biko. On aura la chance de l'écouter un jour ici comme ça en entier, quoi, parce que c'est bien long cette pièce. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et puis la première pause musicale. Je reviendrai avec notre invité Patrick White qui va nous parler de Henry Daniel Tilke, qui est la vie d'un peintre royal méconnu. Voilà, c'est son livre dans son tout nouveau livre. Et, hein, je vous reviens tout de suite après la première pause, la première plage musicale. À tout de suite.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
T'es toute cassée, regarde-toi, comme incrusté dans papier peint. Les motifs sont des croix gammées. Tous les aviateurs incertains. Le magnétoscope est sur pause. D'Indienne au Colorado. Et rien d'autre à faire. Ai-je fait des nœuds dans tes cheveux décolorés? Tu me déshabilles et je me débats. On fait semblant de se faire des bleus. Je plonge mes doigts dans tes yeux roses. T'es pas qu'un astre, qu'est-ce que tu crois? Ressemble à la surface. L'enfant dort sous les nénuphars. Il n'y a plus de fenêtres que des mirages. On est nu, fait comme des rats. T'es toute cassée, regarde-toi, comme incrustée dans le papier peint. Les motifs sont des croix gammées. Tous les aviateurs incertains.
Louis Noël, Bobé alias Titi Boulili avec Vanille Bourbon au violon et Louis Noël Bobé bien sûr à la voix. Voilà, il a un nouvel album qui sort d'ici peu. Là, c'est du lourd d'ailleurs, et j'ai écouté déjà quelques avant-goûts. Je pense bien que ça va surprendre beaucoup de gens avec style complètement différent. Notre invité est déjà au bout du fil. Patrick White, qui va nous parler de ce livre qui me fascine, et je pense que ceux qui n'ont pas encore, il est en librairie, courez chercher votre copie. Il nous parle d'Henri Daniel Tick, La vie d'un peintre royal méconnu. Voilà. Alors, ça c'est Henri Daniel Tick, qui est 1788 à 1874, a failli passer dans les cracks de l'histoire. L'auteur résume ici le parcours fascinant d'un peintre né à Buckingham Palace et qui a évolué au sein de la famille royale britannique jusqu'en 1820, pour s'exiler ensuite en Écosse, 1820 à 1831, à Québec, de 1832 à 1854, et à Chicago, de 1854 à 1878, peintre sous-estimé et méconnu. Alors, Tickell était pourtant un peintre talentueux et résilient, qui fut poussé au nomadisme par un curieux destin, cette enquête journalistique. De longue haleine a débuté en 2006, dans la foulée des recherches en histoire de l'art entreprise par David Carrel et Annie Fraser. C'est un essai. Cet essai est un devoir de mémoire. Patrick White, qui est professeur de l'université de journalisme à l'école des médias à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, journaliste depuis 90, il a fait ses études en communication, en sciences politiques à l'Université de Laval, et puis depuis 30 ans, il a été réalisateur pour CTV News, correspondant de l'agence de presse Reuters, rédacteur en chef et adjoint de la presse canadienne, chef des nouvelles au Journal de Québec, rédacteur en chef de Canoë.ca et fondateur, éditeur et rédacteur en chef du Huffington Post au Québec. Ouais, c'est grâce à lui qu'on connaît ce Huffington Post. Bonjour Patrick White, comment allez-vous?
Bonsoir et merci de me recevoir.
c'est moi qui vous dis merci d'avoir le temps de venir nous parler de ce livre, surtout de la vie de ce peintre inconnu, ou peintre royal méconnu. Voilà, mais comment est-ce que l'idée vous est venue, ou bien vous étiez en train de feuilleter des livres quelque part, et puis, bon, tiens, moi, il faut que je parle de lui. Comment l'idée vous est venue de parler de Henri Daniel Tick?
Alors, Annie Fraser était étudiante à Québec, à l'Université Laval, je la connaissais. Son professeur d'histoire de l'art était David Carrel. Lorsque David Carrel a su, en 97, qu'elle allait passer un an à Londres pour... un exil d'un an, il lui a confié des recherches sur le peintre Tick qui l'obsédait, lui, depuis le début des années 70. Alors, à ce moment-là, le but était d'avoir un texte de 5-6 pages pour le Dictionnaire biographique du Canada, qui est une encyclopédie canadienne historique publiée par l'Université Laval. Oui. Donc, elle a fait des recherches pour lui à la Royal Academy of Art, où a étudié Tick, dont les études ont été payées par le roi George III. Donc, ça montre quand même son importance au sein de la famille royale. Ses parents, à lui, étaient les serviteurs de George III et de la reine Charlotte. Ils étaient ses parents aussi à Buckingham Palace depuis 1770. Alors, donc, Annie Fraser a fait des recherches à Londres, au British Museum, à Buckingham Palace, dans les palais royaux, le château de Windsor, Hampton Court, a réussi à faire une nomenclature des œuvres de Tick. Et elle est décédée en 2001. David Carrel a poursuivi la recherche et avant lui-même de décéder en 2007, il m'a donné ses archives sur le peintre. Alors, comme j'étais au courant des recherches d'Annie, oui, que j'étais en contact avec lui, j'ai été très touché de recevoir cette boîte-là avec toutes ces recherches des 30 dernières années. J'avais aussi les recherches d'Annie. Je me suis dit « devoir de mémoire ». Ne pas laisser tomber un sujet aussi mystérieux et fascinant. Oui. Le gars a été peintre. On a retrouvé 80 de ses peintures. J'ai poursuivi la recherche. La famille du peintre m'a contacté en 2008. Et là, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire ce livre. Alors, en tant que bon journaliste, j'ai dû vérifier les sources, vérifier les chiffres, faire des recherches dans les musées, dans les bibliothèques, à Chicago, à Montréal, Toronto, Ottawa, dans la ville de Québec. J'ai découvert un grand nombre de peintures également. Et durant les 15 années, évidemment, j'ai eu de l'aide de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Musée de la civilisation à Québec, le Musée du Château Ramsay à Montréal, le Musée McCord ici à Montréal également, l'Université Laval, le Musée de l'Amérique francophone à Québec, le Musée des Sœurs Augustines à Québec, qui est à l'Hôtel-Dieu, un hôpital de la capitale, et évidemment le Musée des Beaux-Arts du Canada, les Archives nationales du Canada, et le Musée royal de l'Ontario. Et à travers tout ça, ben, j'ai eu de l'aide du British Museum, la British Library et surtout les collections royales de Buckingham Palace qui m'ont aidé à retracer les peintures. Finalement, boucler la boucle, et à un certain moment donné, bien, j'avais assez de matériel pour 160 pages. Alors, le livre, c'est une enquête journalistique de 15 ans, mais la recherche de David Carrel avait commencé en 1970, Annie Fraser en 97. Donc, moi, c'est un devoir de mémoire pour ce peintre-là, qu'on a un peu oublié au fil des années, à part les spécialistes de l'histoire de l'art et de la peinture, il était peu ou pas connu.
Oui.
Et donc, je me suis dit, on répare une injustice envers quelqu'un qui mérite d'être connu, et aussi le legs intellectuel, la recherche de Annie Fraser et de David Carrel. David Carrel, c'est une sommité mondiale de l'histoire de l'art. Il a un doctorat en histoire de l'art. Il vient de Chicago. Il a été professeur à l'Université Laval pendant presque 40 ans. Et aussi, la préface du livre, c'est de John Porter, qui est l'ancien directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec sur les plaines d'Abraham, qui, eux, ils ont des œuvres, évidemment, de Tilke. Et c'est lui qui fait la préface d'un point de vue historique et qui rattache les fils qui manquaient, parce que moi, je suis journaliste, je suis écrivain, mais je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste de la peinture, je ne suis pas spécialiste de la famille royale. Et John Porter, qui s'était déjà intéressé au sujet, au peintre, et qui connaissait David Carrel, a bien résumé dans sa préface l'importance d'Henri Daniel Tilke comme peintre au Royaume-Uni, en Écosse. 22 ans à Québec, 2 ans à New York et 20 ans à Chicago. Donc, quelqu'un qui a laissé un legs important au point de vue de la peinture, des portraits, les peintures religieuses au Québec, la gravure. Il a également fait des peintures miniatures et des meubles également. Donc, quelqu'un de très complet avec une formation exceptionnelle. Son maître, son professeur à l'école à Londres était Lawrence Thomas, dont un des plus grands peintres de tous les temps en Grande-Bretagne.
Oui, oui. Donc, disons, oui, oui. Vous dites que vous n'êtes pas historien, vous n'êtes que journaliste, mais ce livre, pour moi, ça fait partie. Pour moi, je vois ça comme un livre d'histoire entre mes mains aussi. Ça dit tout, là, parce que c'est l'histoire de cette. Un peu de cette famille Tilke.
Oui, une famille germanique. Hein. On oublie que même la famille royale britannique, à l'époque, était germanique, parlait allemand, avait des coutumes germaniques. Donc, on avait l'Empire germanique à l'époque. Il y avait la Prusse. Donc, les arcanes royales sont extrêmement complexes. On a également l'arrivée de George IV après la mort de George III. Même dans les dernières années, George III était sénile. Donc, on essaie de comprendre le contexte. Le père du peintre. Lui-même était peintre. Il était commerçant pour les grands marchands britanniques avec ce qu'on appelait la Compagnie des Indes, donc l'Inde qui était une colonie britannique. Et quand il est venu au Québec, c'était l'Amérique du Nord britannique. Le Canada n'existait pas et le Québec s'appelait le Bas-Canada. Donc, on rappelle l'histoire de la famille royale, l'histoire de cette famille-là, son exil à lui avec sa femme et son premier enfant en Écosse où pendant 11 ans, il y a eu un échec professionnel et par la suite, ça a été l'appel de l'Amérique du Nord britannique qui était une colonie importante et la ville de Québec, et on en parle beaucoup dans le livre, était la capitale du Canada, la capitale du Bas-Canada, une ville très importante au plan commercial et artistique. C'était le deuxième plus grand port en Amérique du Nord à l'époque. Est-il donc profité en arrivant à Québec de son titre de peintre royal? Donc, il a tout de suite eu un studio de peinture gratuitement au Parlement de Québec qui s'appelait la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. C'est Louis-Joseph Papineau qui lui a donné un accès. Et ça a amené une rivalité épouvantable avec le plus grand peintre de l'époque qui était Antoine Plamondon.
Oui, oui. Mais il n'a pas eu la vie facile à Québec, hein, ce prince, ce peintre-là, Henri Daniel. Avec ses boulots dérisoires, ses boulots, il était comment il a appris le français, parce que de toute façon lui il parlait allemand et anglais. Où est-ce qu'il a appris le français?
Oui. Ouais, ben la ville de Québec était majoritairement francophone, bien que l'élite était anglophone. La ville de Québec était à 40% anglophone à l'époque. Oui. Il y a eu la conquête en 1760 et l'élite était britannique. Donc lui, il était dans son élément. Il y avait beaucoup de journaux anglophones à Québec. Il y avait également la Société littéraire et historique de Québec qui venait d'être fondée en 1828 par Lord Dalhousie, qui est un mécène important. À l'époque, Papineau, qui était un mécène également, Louis-Joseph Papineau était le président du Parlement de Québec et il était également le chef du Parti des Patriotes qui a fait une rébellion contre les Britanniques en 1837 et 1838. Donc, il était accoquiné avec l'élite à cette époque-là. Même, il était sur le conseil d'administration de la Société littéraire et historique de Québec qui existe encore aujourd'hui. Donc, il était sur le CA avec François-Xavier Garneau et des gens extrêmement importants de l'époque. Il a fait des portraits de l'élite à l'époque, les maires anglophones de Québec, les médecins en chef de l'Hôtel-Dieu de Québec, les membres de l'élite de l'armée britannique. Il a fait également une peinture incroyable des Hurons, donc les Hurons-Wendat de Wendake, près de Québec, une nation autochtone. Cette peinture-là a été reproduite à 100 000 exemplaires à l'époque en lithographie. Donc, il a eu des belles années, mais ça a été dur pour lui. Il a dû enseigner dans des écoles secondaires.
Oui, c'est là où je veux. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que j'écoute un professeur d'histoire, un historien. Voilà. Sincèrement, c'est vrai parce que là, il n'a pas eu facile. Les archives de 1847 montrent qu'il a perdu un contrat de professeur de français. Où il était payé à l'époque à 120 livres.
Oui, oui, ben alors il a perdu des contrats. Il a dû arrêter de faire des peintures religieuses parce que Antoine Plamondon l'a humilié. Ses peintures religieuses n'ont pas été acceptées parce que lui n'était pas catholique. Il n'était pas francophone, c'était donc un étranger.
Oui.
Il était anglican par ailleurs, mais il a profité du mécénat de la communauté anglicane protestante qui était très présente à Québec. Vers 1850, son déclin s'explique entre autres par l'arrivée de la photographie. Donc ça, ça a touché à peu près tous les peintres au Québec et ailleurs dans le monde. Et à travers tout ça, il s'est fait prendre la main dans le sac. Il a volé de l'argent dans le coffre-fort de la Société littéraire et historique de Québec. On dit que dans les dernières années, quand les gens acceptaient de se faire peindre par lui, il le payait par dépit parce qu'il était miséreux. Il a eu 7 enfants. Donc, j'imagine aussi 7 enfants à l'époque, 7 bouches à nourrir. Il y avait un enjeu économique. Et évidemment, c'était un anglophone, donc quelqu'un qui venait d'un autre pays. Donc, il a eu des très bonnes années. Mais il y a eu un lent déclin. On ne sait pas si ça a été de l'acuité visuelle. Est-ce qu'il y aurait eu des enjeux autres, familiaux? Il y a un de ses fils qui s'est suicidé également. Et vers 1854, après le scandale du coffre-fort volé à Québec, il déménage à Chicago où il passe 20 ans. On sait peu de choses de cette époque-là. Il s'est annoncé comme peintre. Il a rencontré, on pense, Cornelius Krieghoff, qui était un grand peintre néerlandais qui avait vécu à Québec et à Chicago.
Oui.
Il a fait quelques peintures qu'on a retrouvées, mais malgré tout, j'ai recensé 81 peintures, 3 découvertes depuis la parution du livre et 78 que j'ai retrouvé, dont j'ai retrouvé l'existence. Et je crois que 90 % des œuvres sont encore physiquement accessibles aujourd'hui. Et ça, je trouve ça intéressant. Cet homme-là vit encore à travers ses œuvres et ses peintures.
Oui, comme tous les artistes d'ailleurs, qui quand ils nous quittent, mais ils ne sont pas partis pour de bon parce que leurs œuvres restent avec nous. Nous arrivons...
Oui, mais moi, j'ai acheté des peintures de cet homme-là dans les dernières années parce que ça m'a fasciné. Et au fil des années, la famille du peintre m'a contacté. Comme j'ai dit, ils avaient des peintures, l'arbre généalogique, des photos en couleur, des photos en noir et blanc. On a pu refaire l'arbre généalogique de la famille. Eux, ils sont venus au Québec avec l'autoportrait de Tilk.
S'il vous plaît, Patrick, expliquez-nous comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec les membres de sa famille qui vivent
encore. Ils m'ont trouvé parce que j'avais écrit un article spécialisé sur mon blog qui s'appelle patwhite.com,
oui,
qui est un blog culturel. Alors, eux, en faisant des recherches dans Google, ils sont tombés sur mes recherches que j'avais mis sciemment en ligne pour éventuellement avoir un contact avec la famille. Et en 2008, ils m'ont contacté tout bonnement via mon blog. Ils sont venus à Québec avec les peintures, avec les photos, les archives de famille, et on les a fait analyser.
Ça doit être un moment inoubliable pour vous. Hein?
Émouvant. Très, très,
ouais,
émouvant.
Ouais.
Je pense que j'avais quasiment les larmes aux yeux quand on a sorti les peintures des coffrets. Donc, l'autoportrait du peintre, on ne savait pas qu'il y avait un autoportrait. L'autoportrait de sa femme, le portrait de son père, qui était à Buckingham Palace, et aussi une gravure de la Royal Academy of Arts. Et après ça, ce qui est arrivé, grâce à mon blog, c'est que j'ai des inconnus un peu partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, en Ontario, au Michigan, dans l'Illinois, qui avaient des peintures de lui dans leur garage, dans leur sous-sol,
oui,
le sous-sol du voisin, le sous-sol d'un oncle, une tante, et on a réussi à retrouver 78 peintures de cette manière-là, évidemment avec l'aide des musées également, à Chicago, au Québec, au Canada anglais, en Écosse et au Royaume-Uni, à Londres, évidemment, et finalement, bon, on a retrouvé 81 peintures Et je suis fier de ça, d'avoir ramené à la vie quelqu'un qui méritait d'être connu, qui méritait qu'on connaisse son destin et éventuellement, pourquoi pas organiser une exposition dans les musées québécois et ailleurs, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne.
Je m'apprête à vous demander combien de tableaux de lui vous avez actuellement à votre disposition?
Moi, j'en ai deux et je sais qu'au Canada, il y a quand même une quinzaine de ses peintures accessibles dans les musées en Angleterre, plusieurs dizaines, quelques-unes également aux États-Unis. Donc, on pense qu'on serait capable, si on fait une expo, on aurait probablement entre 40 et 50 œuvres à montrer.
Oui.
Et évidemment, il faudrait l'approbation d'un peu tout le monde. Mais malgré tout ça, on remet au goût du jour Henri-Daniel Tilk et l'article de David Carrel pour le Dictionnaire biographique du Canada. Je l'ai terminé l'an dernier et ça va être publié cette année dans le Dictionnaire biographique du Canada, en français et en anglais à l'Université Laval. Donc, un devoir de mémoire, vraiment. Je suis fier de cette recherche-là qui a abouti à un livre de 160 pages avec des dizaines de photos en couleur, des œuvres,
oh, c'est beau.
Des photos de famille, de ses enfants.
Mais,
on comprend ce qu'ils ont vécu aussi, pas juste lui, là, ce que sa mère a vécu,
oui.
Ses frères, il avait des connexions, il y avait un cousin qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, un autre qui était à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, des connexions un peu partout dans le monde. Et ça me fascine qu'on ait réussi, en fait, à tenter de boucler la boucle parce qu'il y a encore plein de questions sur cet homme-là qui avait un destin extrêmement mystérieux au bout du compte.
Oui, mais Patrick, vous ne pensez pas que vous êtes la personne la mieux placée quand même pour voir tous ces musées avec qui vous avez de très bons contacts pour faire une exposition? Vous êtes la personne la mieux placée?
Peut-être. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir une édition en anglais du livre parce que ça pourrait intéresser les gens dans les pays où il a vécu, dont l'Écosse, Royaume-Uni, évidemment les États-Unis et
le Canada
anglais. Donc
oui.
Après ça, évidemment, on a les marchés australiens et néo-zélandais.
Mm-hmm.
On m'a approché pour un documentaire il y a deux semaines et là, tranquillement, pas vite, comme je te disais tantôt, on a retrouvé trois peintures de Tilk depuis la parution du livre. Alors déjà, on éveille l'intérêt des antiquaires, des collectionneurs d'art. Il y a un encan la semaine prochaine, une peinture de Tilk qui avait disparu depuis 1843. On a retrouvé une de ses peintures religieuses de 1835 qui était présumée perdue à la chapelle d'Oka près de Montréal depuis une centaine d'années. Donc, on est en train de déterrer finalement des mystères et aussi, c'est comme de l'archéologie finalement, on découvre des nouvelles peintures
chaque semaine,
c'est assez passionnant quand même.
Oui, c'est très passionnant, waouh. Je dis bravo à vous et à tous ceux qui vous ont ouvert les portes, hein, aux responsables des musées qui vous ont ouvert, qui ont collaboré avec vous sans aucune hésitation, qui vous ont permis de continuer le travail des deux autres personnes qui étaient déjà là avant vous. Mais pour moi, c'est ces belles peintures qui sont, ces belles photos qui sont là-dedans, mais est-ce que la famille qui est venu vous voir ici en 2008, comment ils ont réagi quand ils ont su que le livre était fini?
Ben, ils sont soulagés parce que pendant 15 ans, j'ai donné des nouvelles, évidemment, j'ai toujours été en contact avec eux, mais ils avaient l'impression que je parlais un peu à travers mon chapeau et que le livre aboutirait jamais.
Okay.
Et je vous dirais confidentiellement, entre toi et moi,
oui,
que c'est la COVID-19 qui m'a donné un bon coup de pied au cul, qui m'a forcé, finalement, je me suis dit, j'ai le temps maintenant d'écrire. J'ai pris 3 semaines, j'ai rédigé le livre en 3 semaines parce que je suis journaliste, j'ai pas l'angoisse de la page blanche, je l'ai jamais eu de toute ma vie.
Oui.
Et après ça, le livre,
j'aime ça, avoir l'angoisse de la page blanche. Oui.
Très dur de trouver un éditeur au Québec qui s'intéresse à l'histoire de l'art et à l'histoire de la peinture.
Pourquoi ils hésitent? Pourquoi ils ne veulent pas entendre
parler? Le manque d'intérêt, le manque de moyens financiers, la COVID-19 qui a entraîné une pénurie de main-d'œuvre dans un grand nombre de maisons d'édition. Alors, j'ai eu un flash à un moment donné, j'ai parlé à Jean-Louis Roy, qui est un visionnaire, c'est l'ancien PDG de Bibliothèque et Archives nationales.
National,
Jean-Louis
oui.
Roy, c'est l'ancien rédacteur, directeur du Devoir.
Du Devoir. Et,
également, il a été à l'ACCT, l'ancêtre de l'Organisation de la francophonie, et lui a débloqué un budget de la BANQ pour publier aux presses de l'Université Laval. Et à ce moment-là, les presses de l'Université Laval ont été très réactives et proactives. On a signé un contrat et par la suite, ça a été la production du livre, qui est toujours difficile, hein?
Oui.
Parce que première révision, deuxième révision, troisième révision, des corrections, tout ça. Évidemment, d'obtenir les droits des photos, ça a été très compliqué et très long. Et ça coûte cher aussi, donc
oui,
il y a eu un processus comme ça. Mais à quelque part, il ne faut pas oublier que cet homme-là a amené au Canada l'art du portrait, l'art britannique du portrait des gens de la royauté,
wow,
de l'élite locale, mais aussi, comme j'ai dit, des Hurons, le peuple Huron-Wendat de Québec à Loretteville. Et ça, c'est important de montrer à quel point les Canadiens français, les anglophones et les Hurons s'entendaient très, très bien déjà à l'époque.
À cette époque-là, oui.
D'esprit, oui.
Oui. Alors, un dernier mot, les derniers 30 secondes qui nous restent. Quel message vous avez à lancer aux responsables des musées qui ont encore des tableaux de lui pour que vous arriviez à organiser une exposition?
Parce
que
sortez les peintures des sous-sols, sortez les peintures des archives, mettez-les sur les murs, on va amener les gens qui s'intéressent à l'histoire du Québec, l'histoire de la ville de Québec, l'histoire de la famille royale, et on pourrait éventuellement donc valoriser notre culture, notre patrimoine culturel et l'histoire de la peinture au Québec et dans le reste du Canada. Et je pense que c'est ça le message du livre. Soyons fiers de notre histoire et de notre patrimoine culturel.
Merci beaucoup, Patrick White.
Bonne soirée. Merci de m'avoir invité.
Merci à vous. Au revoir.
Came into my life, yeah.
Oui, on a la fin de l'émission comme ça. Je dis merci à Myriam Larache qui est venue nous parler des JO de Pékin 2022, jeudi hiver, bien sûr. Et merci à notre invité Patrick White qui est venu nous parler de son livre Henri Daniel Tilke, La vie d'un peintre royal méconnu. Pour ceux qui n'ont pas leur copie, allez-y à la librairie, il est déjà disponible là-bas. Merci beaucoup Patrick White pour ce beau, beau, beau livre et ce bel essai d'ailleurs. Merci à toi Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, le lundi. Et merci à tous nos fidèles auditeurs. Et partez de là tout de suite. Je dis ciao. À demain.